Ah, pour votre voiture. Bon, bah, elle roulera plus, hein. Finito.
Oh, génial. Oh, la chance de malade. C'est génial, je vous embrasse.
Non.
Oh, c'est juste une bise, là, regardez.
Ouais, bon,
oh, c'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. En février, Citroën C4 HDI Collection avec climatisation automatique, Bluetooth et radar de recul est à seulement 17 490 euros.
Citroën, créative technologie.
Offre non cumulable sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Détails sur citroencarstore.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un numéro du Figaro Histoire vient de paraître avec en couverture Charlemagne et la Renaissance de l'Occident. Franck Ferrand nous parle donc aujourd'hui du célèbre empereur. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a eu, je le disais, 1200 ans la semaine dernière que Charlemagne est mort. C'était le 28 janvier de l'an 814. Voilà un anniversaire qui pour une fois ne passe pas inaperçu. Et ce numéro du Figaro Histoire va contribuer à son rayonnement, j'en suis certain. Nous avons invité à nous rejoindre Michel de Gégère, il est le directeur de la rédaction du Figaro Histoire, ainsi que le professeur Michel Rouche, grand connaisseur entre autres de l'époque carolingienne.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Johan sur les roux et les rousses.
Oui, curieuse question, mais qui mérite qu'on y réponde. Alors est-ce que Charlemagne était roux? On pourrait le croire si l'on s'en tient au buste reliquaire d'Aix-la-Chapelle en couverture du Figaro Histoire, mais cette représentation est tardive. Elle ne date que de 1349. Alors, je pense qu'en fait, il n'était non seulement pas roux, mais il n'avait pas la fameuse barbe. Vous savez, l'empereur à la barbe fleurie, ça. Malheureusement, j'ai bien peur que ça appartienne également à la légende. Prête pour une plongée dans le 8e siècle, Céline ?
Oui, c'est parti.
Eh bien, allons-y.
Europe 1. De l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a quelques semaines, en visitant le merveilleux collège des Bernardins dans le quartier latin, j'ai lié conversation avec un monsieur très savant qui m'a parlé du village de Chierzy en Picardie. Chierzy sur Oise, autrefois Caristiliatae. C'est là que se trouvait une villégiature d'origine gallo-romaine, très appréciée semble-t-il des souverains mérovingiens et carolingiens. Et c'est dans ce palais de Chierzy, ainsi est-il mentionné dans d'anciennes chroniques, que serait mort Charles Martel en octobre 741. Pépin le Bref y célèbre la fête de Pâques en 754, 760, 761, 764. Ce sont en tout cas des dates dont on est assuré. Dès lors, certains auteurs estiment que ce pourrait bien être le lieu de la naissance du futur Charlemagne, un certain lundi de Pâques, 2 avril 742. Il est certain que l'empereur Charles va effectuer à Chierzy de nombreux séjours. Il y passera notamment les hivers 775 et 781. De nos jours, seules les photographies aériennes permettent de distinguer encore les contours de ce qui fut un grand palais mérovingien puis carolingien. Bien entendu, on ne sait pas, parce que aucun historien, aucun chroniqueur ne nous l'a dit, on ne sait pas exactement où est né Charlemagne. C'est une possibilité, mais je trouvais sympathique de faire ce clin d'œil à Chierzy. Ce qui est certain, c'est que si Charlemagne n'est pas forcément né à Chierzy, en tout cas, il y a résidé, et même longuement résidé, c'était, semble-t-il, l'une de ses résidences favorites. Alors, vous savez qu'il y en a eu d'autres, bien entendu, on va parler d'Aix-la-Chapelle tout à l'heure. Il est possible aussi que Charlemagne soit né à Mayence. Alors, je démontais tout à l'heure la légende de la barbe fleurie, bien entendu. On pense que Charlemagne ne portait pas la barbe, semblait-il. Ce qui est certain, c'est qu'il était très grand. Alors ça, oui, c'était un véritable géant. Certains disent qu'il pouvait mesurer 1,90 m. Il avait, par ailleurs, une certaine tendance à l'embonpoint. Il faut imaginer un homme avec une tête ronde, un cou un peu épais, les cheveux coupés au bol, selon la mode de son temps. Des grands yeux bien ouverts, si l'on en croit les deux malheureuses représentations dont on dispose, une petite bouche sur un menton à peu près inexistant, et puis une grande moustache à la Franque qui descend de chaque côté de la bouche. La voix, nous disent les chroniqueurs, la voix claire qui tranchait sur l'apparence de ce colosse, hein, de cette espèce de géant. Voilà Charlemagne pour ce qui est du physique. Alors, Je dis Charlemagne par facilité, Carolus Magnus, Charles le Grand. Mais bien entendu, Charles n'a pas toujours été surnommé le Grand. Ce qualificatif, il a fallu qu'il le conquière, comme le reste. Car si l'on jette un regard général sur la vie de Charles, on réalise que tout ce qu'il a pu posséder dans ce monde, il aura fallu qu'il force le sort pour l'acquérir, ce qui, du reste, convenait à son caractère. Alors justement, à quoi ressemblait-il au moral? Il semble que Charles, Charlemagne, ait été un homme pondéré, mesuré, raisonnable, respectueux des sages et des lettrés. Un personnage assez différent de l'image qu'on peut se faire du guerrier franc de cette époque. Un homme de commandement qui aime avant tout être obéi et qui n'a pas pour habitude de répéter ses ordres deux fois. Un homme d'action, enfin, et là je ne surprendrai personne, très audacieux, qui surprend ses adversaires par la rapidité de ses décisions et la fermeté avec laquelle, une fois qu'une décision est prise, il s'y tient, et ça très tôt dans le règne, dès les commencements. Je vais vous demander de me suivre, si vous voulez, jusqu'à la chambre mortuaire de son père, le fameux roi Pépin, dit le Bref. Nous sommes à Saint-Denis en ce mois de septembre 768. Le roi est rentré de la province d'Aquitaine, qu'il vient d'ajouter au royaume des Francs, quand l'hydropisie l'immobile, lise tout à fait. Il est frappé de plein fouet, si l'on peut dire, Pépin le Bref. Son épouse, la reine Bertrade, Berthe au grand pied dans les manuels scolaires, est à son chevet, ainsi que ses deux fils, Charles, donc le futur Charlemagne, qui a 26 ans à ce moment-là, et Carloman, qui a seulement 17 ans. Et puis autour, les évêques, les grands barons, tout ce qui compte dans ce royaume. Autour du lit d'agonie de Pépin, dans cette pièce tendue de bannière, non seulement tout le monde est triste et angoissé, évidemment, on assiste à l'agonie du roi, mais les personnes présentes sont conscientes de la perte immense que l'on s'apprête à faire. La gloire de Charlemagne, par la suite, contribuera à éclipser Pépin le Bref et à lui faire de l'ombre, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été évidemment le premier de la nouvelle dynastie, qu'on appellera carolingienne, que c'est lui qui a donné sa forme presque définitive à la future France, c'est lui qui en a pacifié les provinces, c'est lui qui a fondé les bases d'une église puissante et structurée en France, lui qui a gagné sur les Lombards un territoire qu'il a confié au pape, ce sera la naissance des États pontificaux. Tout ça, c'est Pépin le Bref. Comment ses deux fils ne seraient-ils pas impressionnés par un tel exemple paternel? Mais Pépin a tout de même un défaut, il l'a eu, si je puis dire, un défaut, c'est qu'il s'est cru irremplaçable et selon une coutume déplorable, au lieu de transmettre le royaume à son fils aîné, il a décidé de le scinder en deux. Pas à la mode mérovingienne avec l'Austrasie pour l'un et la Neustrie pour l'autre, non. Pépin, lui, a décidé de léguer tout le bloc oriental du royaume au jeune Carloman et d'installer Charles dans une sorte de vaste couronne de territoire qui donne le sentiment de vouloir embrasser le royaume de son petit frère. Pépin a pris ses fils pour des administrateurs, pas pour des rois à part entière en quelque sorte. Et comme pour les obliger à s'entendre, il a décidé que leur capitale respective serait Noyon pour Charles, Soissons pour Carloman. Dans son esprit, ça devrait faciliter les entrevues, hein, parce que c'est pas loin ces deux villes, évidemment. Ça partait peut-être de bonnes intentions. Deux semaines après la mort de leur père, les deux frères sont donc couronnés rois, chacun dans son royaume, un peu tronqué. Naturellement, l'un et l'autre sont plutôt amers, surtout Charles, qui s'estime lésé. Et la mésentente entre les deux rois frères ne va pas tarder à se manifester. L'Aquitaine, je vous l'ai dit, vient d'être conquise seulement à cette époque. Elle avait été partagée entre les deux royaumes. La partie maritime à l'ouest allait à Charles et la partie plus intérieure allait à Carloman. Or, dès la première année, des troubles sur les terres de Charles vont justifier une intervention des Francs. Charles demande à son frère de lui prêter main forte. Celui-ci refuse. Là déjà, c'est la crise. Ainsi, les nouveaux règnes, s'ouvrent sur une sombre et banale querelle d'héritiers. Pour Charles, la défection de son frère n'est pas une surprise, mais c'est indiscutablement une épreuve. Le jeune roi va devoir faire route seul vers Angoulême, où il écrase les troupes rebelles de Hunold, qui n'a que le temps de s'enfuir jusqu'en Gascogne. Charles fait alors pression sur le duc de Gascogne pour qu'il lui livre le fugitif, et non seulement il obtient gain de cause, mais la Gascogne vient de se placer sous sa souveraineté. Voilà une occasion manquée pour Carloman. Je vous ai dit que Charles allait toujours devoir forcer le sort. En vérité, vous allez voir qu'il n'est pas au bout de ses peines.
Paul Doris sur Europe 1, un extrait du titre Atlantide Sword. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Charlemagne.
Alors, il y a une personne que cette brouille entre les deux frères gêne beaucoup, vous l'imaginez bien, c'est leur mère à tous les deux, c'est Bertrade. C'est une forte personnalité, la reine Berthe. Elle ne va pas laisser sans réagir ses fils s'entre-déchirer. Elle a déjà réussi à marier le cadet à une fille du roi des Lombards, Gerberge. Elle se dit qu'en mariant Charles à la sœur de Gerberge, Désirée, elle allait renforcer les liens familiaux et qu'elle pourrait peut-être comme ça contribuer à rapprocher les deux frères. De son côté, le roi des Lombards, qui s'appelle Didier, serait d'accord. Charles est plus difficile à convaincre. En effet, à cette époque-là, lui s'est entiché de la belle Franque Himiltrude, dont il a eu un fils, qui deviendra plus tard Pépin, dit le bossu. Néanmoins, cédant aux instances de sa mère, entre parenthèses, juste une petite parenthèse, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Michel Rouge, ce Pépin le bossu serait peut-être à l'origine de la légende qui a finalement fait baptiser le père de Charlemagne, Pépin le Bref. Mais enfin, je ferme vite cette parenthèse. Donc, Charles va accepter d'épouser la princesse Désirée, sauf que la malheureuse n'est pas gâtée par la nature et que le roi, en la voyant, ne peut pas cacher sa déception. Il faut que Charlemagne soit en quelque sorte ait une véritable conscience de ses responsabilités pour accepter ce mariage. C'est un homme à femme. Il multipliera les conquêtes de ce côté-là, outre ses épouses successives, la sublime Hildegarde, la cruelle Fastrade, la charmante Liutgarde. Je donne des épithètes pour faire comme si je les connaissais, mais pour tout vous dire, elles sont un peu obscures. Il aura 4 ou 5 concubines dont l'histoire a gardé la trace et il reconnaîtra en tout 14 enfants. En attendant, ce premier mariage avec Désirée de Lombardie a rendu furieux le pape Étienne III. En effet, la papauté à l'époque est en conflit permanent avec les Lombards et elle n'apprécie pas, mais alors pas du tout, de voir les deux fils de son ancien protecteur mariés avec les deux filles de son persécuteur de toujours. La réprobation papale n'empêche pourtant pas Charles de convoler en juste noces sans que le but de rapprochement visé par la reine Bertrade puisse être atteint, et pour cause. Le 4 décembre 771, le petit frère, Carloman, meurt prématurément près de Laon, à Corbeny. Et voilà qu'une fois de plus, Charles va devoir forcer le sort. Il aurait pu laisser filer les choses, pas du tout. Il décide, sans perdre de temps, de spolier purement et simplement ses neveux. Il déclare récupérer pour lui seul l'ensemble des territoires de son frère. Ainsi le royaume, qui a déjà été agrandi, ainsi le royaume de Pépin, se trouve-t-il reconstitué. La belle-sœur, doublement belle-sœur si on peut dire, la malheureuse Gerberge, est outrée par de tels procédés. Elle est furieuse, elle se réfugie avec ses fils en Lombardie, à la cour du roi Didier son père. Elle y retrouve sa pauvre sœur Désirée que Charles n'avait pas tardé à répudier et à renvoyer au beau-père. Vous imaginez les conversations entre les deux sœurs maltraitées. À mon avis, les oreilles de Charles ont dû beaucoup siffler à ce moment-là. Naturellement, dans ces conditions, une guerre de Francs contre Lombards était à peu près inévitable. Elle va avoir lieu, cette guerre, dès 773, avec une fois de plus le pape pour arbitre et la papauté pour enjeu. En effet, le roi Didier vient d'envahir les territoires confiés au pape, confiés par Pépin le Bref. Or, le roi des Lombards a bien juré de forcer le souverain pontife, il s'appelle maintenant Adrien Ier, c'est lui qui a remplacé Étienne III, de forcer le pape, donc, de l'obliger à sacrer les rois des Francs, les fils de Carloman et Gerberge. Pas question pour Charles de laisser passer une aussi belle occasion d'aller montrer à toute l'Europe de quel bois elle se chauffe. Le nouveau roi de tous les Francs sépare son armée, la moitié passera par le mont Saint-Gothard, l'autre par le mont Cenis, et les deux, en dévalant sur Didier comme une avalanche de fer, vont tailler les Lombards en pièces et les forcer à la retraite. Gerberge et ses rejetons s'enfuient jusqu'à Vérone, où Charles les rattrape, les fait prisonniers. Quant à Didier lui-même, il s'est replié dans Pavie, sous les murs de laquelle les Francs mettent le siège. On est là en juin 774, tout va bientôt être consommé et Charles, coiffant la mythique couronne de fer, va pouvoir prendre le titre de roi des Francs et des Lombards. Mais entre-temps, ce long siège de Pavie, aucun rapport évidemment avec l'autre dont nous parlons beaucoup plus souvent en 1525, ce long siège de Pavie a donné l'occasion de comprendre à quel point le pape était essentiel dans cette affaire. Je vous ai dit que la papauté était l'enjeu. Et Charles va se rendre lui-même à Rome à la rencontre de ce souverain pontife au secours duquel il n'avait pas hésité à voler, en suivant comme ça d'ailleurs l'exemple de son père. Le samedi saint, le pape Adrien Ier, qui apprend que le roi des Francs n'est plus qu'à 30 000 de la ville éternelle, lui envoie une brillante délégation et lui-même va sortir hors les murs pour l'accueillir. C'est un cas tout à fait exceptionnel. Les chants des enfants de chœur accompagneront le cortège jusqu'à la basilique Saint-Pierre. La basilique de l'époque, hein, évidemment, rien à voir non plus avec celle que nous connaissons, c'est même le moins qu'on puisse dire, mais qui déjà était évidemment pour l'époque une basilique grande, somptueuse. Le roi, pour y entrer, a pris dans sa main gauche la main droite du pape, symbole très fort. Et on peut dire que dès à présent, Charlemagne devient le protecteur de la chrétienté. Et les voilà tous les deux qui avancent main dans la main dans cette basilique même où un quart de siècle plus tard, Charlemagne sera couronné empereur. La considération religieuse est si forte chez Charles qu'il se comporte très différemment selon qu'il affronte des chrétiens, les Lombards par exemple, ou des païens comme ces Saxons qu'il passe son temps à décimer tous les étés. Les premiers sont traités avec une forme d'humanité, de clémence, les prisonniers de marque sont seulement envoyés au monastère, les seconds sont massacrés allègrement, les prisonniers, qu'ils soient de marque ou non, sont décapités au couteau, jusqu'à 4500 exécutions en un après-midi, hein, quand même, faut imaginer la violence, la sauvagerie, devrais-je dire, de ces combats de l'époque. Tous les survivants sont convertis de force, faut-il le préciser. La dimension messianique de Charlemagne, de ce Charlemagne guerrier, est déterminante. Elle explique cette attention très grande et peut-être excessive qu'il va accorder sur le Danube aux Avars, aux Sarrasins de l'autre côté des Pyrénées, rappelez-vous Roland à Roncevaux, toujours cette dimension de conquête pour la chrétienté. Au demeurant, cette préoccupation religieuse dépasse le cadre militaire. Elle permet de comprendre Charlemagne sous les autres visages, si je puis dire, celui du législateur, celui de l'administrateur et de l'homme de culture et de belle civilisation.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de son récit sur Charlemagne. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Charlemagne.
Alors nous allons y revenir évidemment en compagnie de nos invités. Je vous ai dit que Charlemagne avait passé sa vie à forcer le destin. C'est vrai aussi en matière de politique et intérieure. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit que Charles était un grand législateur. Bien sûr, il ne faut pas comprendre législateur dans le sens qu'on donne à ce mot de nos jours. La plupart des actes rendus par le souverain et dont on conserve une trace sont naturellement d'ordre réglementaire, administratif. Mais dans les capitulaires de Charlemagne, on retrouve tout de même une volonté très nette de faire jurisprudence, de normaliser un droit qui avant lui était quand même largement en friche. J'aime beaucoup lire les lettres circulaires envoyées par Charles à différents personnages de ses états. C'est écrit dans un style qu'on peut dire reconnaissable d'une certaine manière, à la fois coloré et juste, fortement teinté de paternalisme. C'est peut-être un leurre, mais on a quasiment l'impression d'entendre Charles parler derrière ces mots. Ce qui s'y manifeste le plus, et c'est aussi le sens des intendants, les fameux missi dominici qu'il envoyait sur le terrain pour faire appliquer ses ordres et lui rendre compte des réalités, ce qui se manifeste, c'est une lutte permanente pour se faire obéir de gens qui, depuis très longtemps, avaient été habitués à n'en faire qu'à leur tête. Si j'ose dire, Charles aura remis de l'ordre dans ses Gaules livrées à elles-mêmes depuis la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire depuis trois bons siècles. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur cette temporalité, c'est très important parce qu'on a, nous, un regard qu'on appelle téléologique. Qu'on a une déformation, bien entendu, par rapport à ces deux époques reculées, mais il ne faut pas oublier la filiation manifeste qui peut exister entre les deux époques et sur bien des points. Toute proportion gardée, on peut dire que sur le modèle de Rome, Charlemagne va vouloir construire une sorte de Rome nouvelle. Alors il va bâtir le grand palais des Francs entre Rhin et Meuse à Aix, exactement, qui deviendra Aix-la-Chapelle après la construction de la fameuse chapelle. Les architectes qu'il emploie à l'époque s'inspirent directement du modèle romain dont ils reprennent à peu près tous les grands canons, hein, les colonnes, les arcs, les voûtes, mais aussi les matériaux, des plus nobles comme le marbre, aux plus ordinaires comme la brique. La vaste salle de ce palais au premier étage du corps principal mesure quand même 46 mètres de long sur 20 mètres, près de 1000 mètres carrés donc pour une salle civile de réception au 8e siècle. Ça vous donne une idée de la grandeur, du faste de ces lieux. Or, dans ce palais, le souverain convie la fine fleur de ce que j'ai envie d'appeler l'intelligentsia de l'époque. C'est à Aix, naturellement, qu'il faut imaginer les réunions pittoresques et sans doute très stimulantes de cette académie du palais qui voulait renouer avec les grands cénacles grecs et romains. Là, les savants réunis prennent des noms latins, dissertent de grands sujets, comme on pourrait le faire à la même époque à Byzance, la deuxième Rome. Et si, se demande-t-on, Aix-la-Chapelle était un peu devenue la troisième Rome. Il faudra peut-être parler de l'exemple qu'on a constamment à l'esprit, bien entendu, de la cité de Dieu de saint Augustin. L'indolence de nos ancêtres avait presque réduit à rien l'étude des lettres, note Charles lui-même dans une lettre circulaire qui nous est parvenue. Nous nous efforçons de la ranimer et nous invitons tous ceux que nous pouvons décider par notre exemple à pousser jusqu'au bout l'étude des livres sacrés. N'en doutons pas, n'en déplaise à certains érudits toujours prêts à couper les cheveux en quatre, c'est bien une grande et belle renaissance qui est en train de se manifester sous nos yeux, sous la férule efficace de ce grand souverain, ami des lettrés et des penseurs, on parlera d'Alcuin, etc. L'attention de Charlemagne se concentre tôt sur l'enseignement, dont il n'a pas tardé à comprendre qu'au fond, tout procède. Le soin qu'il va mettre à ce qu'on rouvre, à ce qu'on développe les classes ouvertes aux clercs naturellement, mais aussi aux laïcs. Ce soin est à l'origine de la fameuse légende d'un Charlemagne inventant l'école. Vous savez, on se rappelle notamment l'anecdote fameuse relatée par Notker, le moine de Saint-Gall, sur Charlemagne qui inspecte une classe. Vous savez, il y a là des riches, des pauvres, etc. Et Charlemagne fait la leçon littéralement et explique qu'il faut avoir du respect pour le savoir et que l'instruction doit venir au premier rang de toutes les vertus. Cette histoire est certainement apocryphe, mais elle n'en traduit pas moins une véritable préoccupation du souverain. Ça, c'est incontestable. Du souverain, de ses conseillers, de cette époque, d'une façon plus générale. A priori, ce soldat, cet homme d'action élevé pour combattre, n'était pas ce qu'on appelait un clerc, c'est-à-dire pour nous un intellectuel. Eh bien, ça ne va pas l'empêcher de chercher constamment à se cultiver lui-même. Sous son règne, la graphie quasi illisible, alors je dis ça devant le professeur Michel Rouche, enfin la graphie difficile des temps mérovingiens fait place à cette belle et lumineuse calligraphie qu'on appelle caroline, dans laquelle quasiment n'importe qui pourrait lire à livre ouvert. La grammaire latine redevient une discipline en vogue. Charles lui-même, bien qu'il s'exprime ordinairement dans un dialecte germanique, est un brillant orateur en latin. Son seul point faible dans ses disciplines littéraires, on le sait, c'est l'écriture. Quand il était enfant, chez Pépin, l'idée d'apprendre à écrire à un futur chef de guerre paraissait inouïe. Et ce n'est que très tard, il avait déjà une cinquantaine d'années, que Charles aurait pris les premiers cours pour apprendre à écrire. Un grand chroniqueur de ses amis nous révèle que le souverain cachait sous les coussins de son propre lit un certain nombre de tablettes et de parchemins. Ces derniers lui proposaient des modèles que d'un calame hésitant et maladroit, semble-t-il, il se serait efforcé de reproduire de son mieux sur des tablettes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime à me représenter Charlemagne approchant sa lampe en pleine nuit et peuplant les heures d'insomnie du chef d'État qu'il était, des exercices d'écriture d'un élève bien appliqué. Bonjour messieurs, bonjour Michel Rouge, bonjour Michel de Gégère. Nous allons revenir évidemment sur la vie de Charlemagne, mais si vous le voulez bien, nous allons commencer par sa mort, dont on a célébré il y a quelques jours le 1200e anniversaire.
Nous sommes au cœur de l'histoire de Charlemagne cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Michel Rouge, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, dont le numéro 12, actuellement en kiosque, est en partie consacré à Charlemagne.
En grande partie même, et comme d'habitude, en belle partie. J'aimerais commencer avec mes deux invités, mes deux Michel, par l'image que l'on a évidemment de Charlemagne, et qui doit beaucoup, bien entendu, à toutes ces chroniques largement posthumes et même pour certaines tardives. Il y en a une qui nous raconte, on est en l'an 1000, donc on est près de deux siècles après la mort de Charlemagne, et en l'an 1000, l'empereur Othon III, qui a décidé de se placer officiellement sous le patronage de Charlemagne, pour bien marquer les esprits, va rouvrir à Aix la chapelle, la sépulture du souverain. On est le jour de la Pentecôte. Voilà ce que nous dit le chroniqueur. Nous entrâmes chez Charlemagne. Il ne gisait pas, mais se tenait sur un trône comme s'il était vivant, la tête ceinte d'une couronne d'or. Il tenait un sceptre dans ses mains couvertes de gants que les ongles continuant à pousser avaient troués. Au-dessus de lui se trouvait un arc remarquablement construit en pierre de taille et en marbre. Arrivés dans sa présence, nous avons perçu une odeur très forte, nous l'avons adoré, genoux fléchis. L'empereur Othon le revêtit de vêtements blancs, lui coupa les ongles et répara tout ce qui était endommagé autour de lui. Aucune partie du corps de Charles n'avait subi l'atteinte de la corruption. Un petit morceau du haut du nez, qui s'était brisé, fut remplacé par une plaquette en or. Othon III enleva en outre une dent à Charles, puis referma le sépulcre et se retira. On avait quasiment affaire à une personne divinisée post-mortem, Michel Rouge.
Et sanctifiée.
Sanctifiée, et pour cause, oui.
Il est vraiment considéré comme le saint fondateur de l'Empire, celui qui a tenu tête en 800 à la papauté lorsque il a été couronné empereur, quand il est sorti de Saint-Pierre du Vatican, il était absolument furieux, personne ne l'a cru, les gens qui ont lu Eginhard ont dit « mais c'est pas vrai, comment se fait-il que Charlemagne puisse être furieux d'avoir été couronné empereur ?» En réalité, Charlemagne était quelqu'un qui avait le sens de la grandeur impériale à un tel point qu'il connaissait exactement le cérémonial de création des empereurs à Constantinople. Il savait très bien qu'à Constantinople, l'empereur recevait la couronne une fois que les acclamations de la foule en armes l'avaient porté à l'Empire. Or, que s'est-il passé? Le pape a pris la couronne et l'a posée sur la tête de Charlemagne agenouillé. Et ce n'est seulement qu'après avoir reçu la couronne sur la tête que les acclamations de l'armée ont éclaté dans la voûte de la basilique de Constantin. Cela voulait dire, de la part du pape, le pouvoir vient de Dieu. Omnis potestas adeo, c'est la phrase de saint Paul qu'il rappelait. Et cette querelle explique pourquoi Charlemagne était furieux au sortir de la basilique. Et ça a eu des conséquences encore plus lointaines, puisque lors du sacre de Napoléon, vous savez très bien que Napoléon n'a rien fait de mieux que de prendre la couronne impériale et se la mettre lui-même sur la tête.
Exactement.
Et il ne voulait pas que recommence le coup de colère de Charlemagne.
Eh oui. En fait, il y a une véritable filiation d'ailleurs. Alors, on va parler tout à l'heure de la Renaissance carolingienne et du lien à Rome, mais surtout, et vous venez de le laisser entendre, à la deuxième Rome, à Constantinople, qui joue un rôle essentiel comme modèle pour Charlemagne. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur sa mort, puisqu'on en célèbre en ce moment le 1200e anniversaire. On ne sait pas exactement où Charlemagne est né. J'ai émis une hypothèse tout à l'heure, qui, je crois, est de plus en plus largement suivie, parce que lorsqu'on recoupe, si l'on ose dire, en faisant un énorme anachronisme, les agendas de Pépin et de sa cour, on se dit qu'il est très probable qu'au moment de Pâques de cette année-là, la cour se soit trouvée, justement, en Picardie. Bon. Mais en tout cas, on sait absolument où il est mort, on connaît la date, et cette date, elle a été d'ailleurs célébrée récemment, il faut le dire, Michel de Gégère.
Par un très, très beau colloque à la Sorbonne, à l'occasion d'une nouvelle édition de la vie de Charlemagne par Eginhard, parce que Charlemagne a cette particularité que nous avons une biographie de lui qui est...
Alors moi, je l'ai cité pas mal sans le dire tout à l'heure, mais vous le faites.
Et qui est donc une biographie par un contemporain. Alors la biographie ne lui est pas contemporaine, puisqu'elle a été écrite sous le règne de son fils Louis le Pieux, mais elle a été faite par un historien qui a connu Charlemagne. Et on a beaucoup glosé et sur la question de savoir si cet historien n'avait pas un petit peu paraphrasé Suétone et attribué à Charlemagne des faits et gestes qui étaient en fait ceux des empereurs romains. Et aujourd'hui, on revient beaucoup sur l'historicité de la biographie des Ginards. Et beaucoup, le Charlemagne vivant, le Charlemagne, le physique, le caractère, les goûts, l'appétit, etc., on le connaît grâce à les Ginards. Et donc, la Sorbonne a célébré la mort de Charlemagne le 28 janvier par un colloque savant autour de cette nouvelle biographie et la lecture du récit de la mort de Charlemagne par les Ginards. C'est donc très émouvant.
Alors, cette biographie, cette vie de Charlemagne des Ginards, introduite par Michel Sault et Christiane Verarcom, est publiée aux éditions des Belles Lettres, bien entendu. Je dis bien entendu, ça paraît presque tomber sous le sens.
Oui, c'est la réédition de celle de Alphen dans les années 30.
C'est-à-dire que ce n'est pas une réédition, c'est une nouvelle édition, et celle de Alphen avait été la première de la collection.
Voilà.
Et c'est l'équivalent de Budet, si vous voulez, pour le Moyen-Âge. Et là, c'est une nouvelle édition.
Vous parliez d'hypercritique, Michel Rouche. Il faut peut-être expliquer ce que vous voulez dire par là. Après,
je voulais dire par là que la biographie, lorsqu'elle a été éditée pour la première fois, sous prétexte qu'il y avait d'abondantes citations de Suétone dans le texte des Ginards, on finissait par dire « Ah, mais oui, en réalité, ce ne sont pas des détails authentiquement vécus. »
C'est une sorte de plagiat de Suétone.
C'est un plagiat de Suétone, et par conséquent, ce texte n'a aucune valeur, étant donné qu'il ne fait que répéter ce qui est... C'était l'époque triomphante de l'hypercritique, où l'on se méfiait de tous les textes, même quand ils étaient écrits par des contemporains.
Et ça nous entraînerait, j'ai très très envie d'aller sur un autre terrain, mais je vais me retenir parce que je vois que nous n'avons plus que 23 minutes pour parler de Charlemagne, c'est pas beaucoup, donc, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette dérive qu'on a subie dans bien des disciplines et pour bien des époques. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, Charlemagne est, il faut bien le comprendre, le petit-fils de ces personnages, alors le petit-fils de Charles Martel, le fils de Pépin le Bref, on va pas revenir sur le surnom de Pépin, en tout cas des personnages essentiels de la fin des temps mérovingiens, Michel Rouche.
Oui, la fin des temps mérovingiens est absolument capitale, puisque de nouvelles solutions sont mises en lumière avant que ne triomphent complètement les Carolingiens, en particulier la grande réforme financière et monétaire de Childéric II, qui abandonne la monnaie d'or pour la monnaie d'argent et qui procure aux Carolingiens un outil financier beaucoup plus adapté à la situation économique, à telle enseigne que Charlemagne, par la suite, a pu, grâce aux deniers lourds qu'il a promulgué en 794, il est extrêmement rare qu'on fasse une réévaluation, Charlemagne a réussi une réévaluation du denier d'argent, ce qui prouve la prospérité économique de son temps. N'oublions pas qu'il n'y a que Ludwig Erhard, le successeur de Konrad Adenauer, qui a réussi une réévaluation.
C'est pas très fréquent.
C'est vraiment quelque chose de rare. Et enfin, autre point important, le capitulaire de Nimègue de 806, où Charlemagne interdit le prêt à intérêt, c'est-à-dire au nom du refus chrétien de la spéculation, il ne veut pas que le prêt à intérêt soit répandu, et il fallut attendre une décision d'un concile à Utrecht en 1713 pour que l'interdiction par l'Église catholique du prêt à intérêt finisse par être abandonnée. Or, justement, cette interdiction du prêt à intérêt protéger les pauvres, étant donné les intérêts énormes qui nous sont décrits dans le capitulaire de Nimègue, jusqu'à 50-100% de taux d'intérêt. Et la prospérité a été assurée grâce à cette mesure législative fondamentale.
Comment expliquer que ce souverain, alors certes empereur et couronné en l'an 800, bon ça c'est ce qu'on apprend à l'école évidemment, comment expliquer qu'il ait à ce point marqué son temps? C'est une rupture qui a l'air assez nette en vérité.
Une rupture et une continuité en même temps, parce qu'on avait oublié l'héritage romain qui était pratiqué par les rois mérovingiens au 5e et 6e siècle, et il remet en valeur cet héritage juridique romain, ces textes de loi, la plupart du temps, reflète le droit romain de la fin du Bas-Empire et retrouve le sens de la res publica. Et même les termes qui sont employés à l'époque de Charlemagne sont très précis. Il s'agit d'une res publica christiana, il s'agit d'un État chrétien où le christianisme imbibe les principes de droit romain pour en faire une société de chrétienté où les principes de la vie religieuse coïncident avec les intérêts économiques et sociaux de l'époque.
C'est un des aspects que vous développez hein, dans ce grand dossier du Figaro Histoire, Michel de Gégère, cette présence de l'Église et ce renouveau.
Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut effectivement souligner le fait que Charlemagne est un conquérant, tout le monde le sait, mais c'est aussi un héritier.
C'est ça.
Il hérite de, malgré tout, l'hégémonie des Francs en Europe occidentale, qui date des temps mérovingiens. Il hérite du royaume de Pépin le Bref, qui est déjà, on le sait mal, mais un territoire considérable, beaucoup plus grand que la France actuelle. Alors, Charlemagne va bien sûr l'agrandir, mais il hérite déjà d'un presque empire. Et il hérite également de la royauté sacrale, c'est-à-dire son père, manquant de légitimité après les derniers mérovingiens, a fait appel à l'Église par le sacre pour lui donner la légitimité qui lui manquait. Il s'est même fait sacrer deux fois, et Charlemagne, lui, finalement, en définitive, sera sacré trois fois. Une fois du vivant de son père, une fois à la mort de son père, et une fois après avoir récupéré les territoires de Carloman. Donc cette idée de sacralité du pouvoir est absolument centrale. Charlemagne, vous l'avez dit tout à l'heure, a des conversations savantes avec les intellectuels, si l'on peut dire, le terme est complètement anachronique
de sa cour.
Et au cours de ces conversations, la lecture qu'il préfère, c'est la lecture de la Cité de Dieu de Saint-Augustin.
Vous montrez, il y a tout
il se fait lire à table devant tout le monde. La Cité de Dieu de Saint-Augustin.
Voilà, qui est une sorte de référence absolue. L'augustinisme, il faut dire, règne en maître, là. On est au 7e, 8e, 9e siècle. C'est vraiment le...
Donc, il est imprégné de l'idée que sa mission est de préparer ses sujets au salut. Voilà, c'est vraiment l'essentiel de... Il ne s'agit pas de... Les conquêtes ont un aspect de croisade. On conquiert et on envoie des missionnaires en même temps.
D'autant plus que certaines conquêtes ont été marquées de défaites terribles. Hein. La défaite de Roncevaux le 15 août 778, oui. Hein, toute l'arrière-garde a été massacrée et les otages arabes que Charlemagne avait emmenés pour ne pas être attaqués ont été enlevés par les Basques et les Arabes réunis. Hein. Même chose pour la défaite du Suntalgebirge.
C'est-à-dire que, en fait, la légende de Roland finit par cacher était un véritable désastre.
Absolument. Et la défaite du Suntalgebirge est du même genre en 782. Donc, le courage personnel en matière d'opérations militaires et la stratégie personnelle de Charlemagne sont des qualités fondamentales qu'il faut lui reconnaître.
Si vous voulez, nous y venons dans un instant.
Sur Europe 1, un extrait de Sacré Charlemagne. Et vous l'avez compris, dans Au cœur de l'histoire, c'est Charlemagne qui est à l'honneur cet après-midi. Avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Michel Rouge, professeur émérite à la Sorbonne, auteur, entre autres, des Racines de l'Europe, les sociétés du Moyen-Âge aux éditions Fayard, et Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, dont le numéro actuellement en kiosque est en grande partie consacré à Charlemagne.
Et justement, au-delà de l'école, selon France Gall, à cet extraordinaire renouveau spirituel, artistique, qui transparaît hein, dans ce beau cahier avec des illustrations magnifiques. On voit des trésors carolingiens, en fait. On a peut-être tendance parfois à oublier à quel point cette période a été lumineuse. Alors avant d'en arriver aux lumières, si je puis dire, parlons de la guerre, du fer et du sang. Michel Rouge, vous nous disiez que cet homme est quand même un génie dans ce domaine.
C'est un très grand stratège et un très grand tacticien en même temps. Quand on met sur la carte les itinéraires des troupes qu'il a dirigées, soit du côté de l'Espagne, soit du côté de l'Italie, soit du côté de la Saxe, on est frappé de voir qu'il a une double tactique. Soit il attaque le territoire ennemi en 4 ou 5 colonnes diverses qui se rejoignent sur un point complet à l'intérieur du territoire ennemi. Ou bien en sens inverse, une seule armée qui arrivait à l'intérieur du territoire ennemi, cette colonne unique se divise en 4, 5, 6 colonnes. il y a là une adaptation aux situations de l'adversaire qui prouve que l'on a affaire à un très grand tacticien et en même temps qu'à un très grand stratège.
Et un stratège qui est offensif. Oui. Il suffit de regarder la carte, parce qu'il y a une très belle, comme toujours, hein, vous avez un cahier chronologique avec des cartes, avec une généalogie des Carolingiens, etc., pour bien s'y repérer. Et quand on regarde la carte de l'Europe à la fin, enfin de tout le bassin méditerranéen même, de toute l'Europe occidentale, disons, à la fin de la vie de Charlemagne, à sa mort en 814, on se rend compte qu'il avait constitué un empire qui s'étendait tous azimuts, en quelque sorte. C'est une véritable puissance agressive, si l'on peut dire.
Et ceci, malgré les défaites qu'il a rencontrées. Ce qui est la preuve de son génie, à se relever de plusieurs défaites, c'est vraiment la preuve qu'on a affaire à un caractère tout à fait hors du commun et qui est capable de retourner une situation.
Avec, je le disais tout à l'heure, une attitude différente en fonction du type d'adversaire, selon qu'il s'agit de chrétien ou de non-chrétien d'ailleurs, hein, c'est important.
Tout à fait. Et il est évident que sa manière d'agir était particulièrement brutale avec ce qui concerne les germaniques et en particulier la Saxe. La conquête de la Saxe a été quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a eu des exécutions de chefs de tribu qui ont été décapités en public devant les troupes saxonnes. Mais il faut souligner aussi que dans sa tentative de christianiser la Saxe, c'est-à-dire le territoire entre les Pays-Bas actuels et l'Elbe et au nord de la Ruhr, eh bien, dans sa tentative de christianiser les Saxons, il y allait de manière tellement forte et tellement violente que un de ses conseillers ecclésiastiques, Alcuin, a fini par dire non, on ne peut pas baptiser de force les païens, c'est absolument interdit. Et nous avons 4 lettres d'Alcuin à Charlemagne, Alcuin protestant, Alcuin est un anglo-saxon, un conseiller très écouté de Charlemagne, Alcuin proteste en disant « Tu n'as pas le droit de baptiser les Saxons de force. » Effectivement, et on faisait rentrer les Saxons complètement nus dans l'eau d'un fleuve, on faisait grimper un évêque sur un tertre en face des Saxons.
Baptême à la chaîne.
Et on les fait baptiser à la chaîne à coups de goupillon du haut du tertre, et ensuite ils défilaient devant l'empereur en répandant une odeur de chien mouillé et lui prêtaient serment de fidélité. Et Alcuin disait non, non.
Il y a d'ailleurs un bel article, un portrait de Michel Sault qui s'appelle Alcuin, un sage à la cour dans le magazine. Alors, lorsqu'on voit justement ce qu'il est advenu de l'empire de Charlemagne, parce que vous allez un petit peu plus loin, bien entendu, Michel de Gégère, on voit que les successeurs ont redécoupé, morcelé ce qui avait été unifié. Il ne faut pas oublier cette dimension essentielle de Charlemagne qui aujourd'hui reste en quelque sorte la référence de tous les partisans d'une grande Europe fédérale, très unie en quelque sorte. Hein. Il est un peu considéré à tort ou à raison comme le père ou l'arrière-grand-père de l'Union européenne.
Oui, parce que cette reconstitution de l'Empire romain d'Occident, elle s'est faite quand même assez vite, à la hache,
un peu brutalement,
avec un certain nombre de populations qui n'avaient jamais fait partie de l'Empire romain, notamment à l'Est. Il est allé beaucoup plus à l'Est, vers la Germanie, que l'Empire romain. Et donc, il unifie dans un seul corps politique des populations qui sont très diverses par la culture, par les habitudes, par l'histoire, par la coutume. Et donc tout ça repose beaucoup sur sa personne. Et on a affaire à un individu d'exception qui arrive à créer une œuvre exceptionnelle, mais comme toujours dans ces cas-là, après sa mort, ça devient plus difficile. Alors il a la chance politique, entre guillemets, de n'avoir qu'un fils quand il meurt, parce que c'est une chance très entre guillemets, puisque les autres sont morts.
C'est une chance.
Mais politiquement, ça a été une chance, ce qui fait que ça a duré sous Louis le Pieux, mais ensuite on est revenu au partage, comme au temps des Mérovingiens.
Et surtout, il n'est pas arrivé à éliminer la pratique germanique du partage du pouvoir entre les héritiers.
Ouais. C'est bizarre.
La vieille pratique de la tanistrie, qui est une pratique de type païen, le pouvoir est partagé entre les enfants sous l'influence plus ou moins occulte de la reine. C'est elle qui est derrière. Et c'est particulièrement net pour le petit chéri de l'impératrice, l'épouse de Louis le Pieux, qui a exigé un morceau de l'Empire pour le futur Charles le Chauve. Et c'est cela qui a déclenché le partage de l'Empire de Charlemagne.
Alors, il y a peut-être aussi un élément, je parle sous votre contrôle, c'est que je pense que Charlemagne a aussi joué deux fers à la fois, c'est-à-dire que d'une part, il a établi une administration avec des comptes relevant de lui, etc. Puis d'autre part, qui était donc une administration, un peu des préfets, si vous voulez, qui étaient des fonctionnaires chargés d'administrer des comtés. Et en même temps, pour s'assurer la fidélité personnelle des grands seigneurs, y compris des grands seigneurs ecclésiastiques, il a beaucoup joué sur la vassalité. Il a demandé serment de suzerain à vassal à beaucoup de seigneurs, et ça a créé une espèce de lien personnel à côté du découpage administratif. Alors, de son vivant, l'un a renforcé l'autre, mais après, on s'est retrouvé avec des vassaux qui léguaient leur territoire à leurs descendants, etc. Et ça a aussi été un ferment d'éclatement.
Je crois surtout que Charlemagne n'était pas d'accord avec la vision chrétienne du mariage. Son père et sa mère, oui, ont été les premiers rois à pratiquer le mariage selon l'optique chrétienne. Mais lui, il a 10 unions connues et 19 enfants. Et il a trouvé ça normal.
Oui, il a toutes sortes de concubines. Enfin, il a une vie privée qui est pour le moins agitée. Hein.
Voilà,
c'est le moins
et les
dire.
Enfants qui sont...
c'est une force de la nature.
Ouais. Les enfants qui sont
à tout
nés...
point de vue, parce qu'ils mangent beaucoup aussi. Oui.
Les enfants qui sont nés de ces concubines estiment qu'ils ont droit au partage du royaume. Et les demi-frères de Louis le Pieux ont passé leur temps au début du règne de Louis le Pieux à se battre contre l'empereur en place, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient droit à un morceau du gâteau. Hein. Et c'est cette incomplète christianisation du mariage, avec la nécessité de partager selon la pratique germanique de la tanistrie, qui fait que petit à petit l'empire carolingien
va se remorceler en fait.
Et
bah,
se remorceler.
Bien sûr.
Et il faut attendre Hugues Capet pour arriver à la solution.
Puisque vous avez entrebâillé le rideau sur l'intimité du roi Michel Rouche, on est assez surpris de voir le raffinement de la table à Aix-la-Chapelle. On est assez surpris de voir que ça c'est ce que nous raconte justement la vie de Charlemagne sur ses tout derniers moments. On nous dit que en sortant de son bain, il était tout grelottant et qu'il ne s'en est pas remis, etc. Donc il prenait des bains.
Ah ben naturellement, la station thermale d'Aix était continuellement utilisée et l'empereur se baignait dans la piscine des thermes romains et il avait toute sa cour autour de lui.
Avec quelquefois des conversations savantes dans la piscine.
Mais oui.
Alors des conversations savantes, on parlait d'Alcuin, il y avait comme ça un certain nombre de lettrés, de personnes qui étaient des références, qui connaissaient parfaitement les textes anciens. On a tendance à toujours nous parler d'une sorte de nuit noire entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance telle qu'on la connaît, celle des 15 et 16e siècles. Alors évidemment, les médiévistes que vous êtes hurlent quand ils entendent ça, mais il suffit de feuilleter ce numéro du Figaro Histoire pour voir de somptueux émaux cloisonnés, des enluminures incroyables, de très belles sculptures sur ivoire. On est dans une efflorescence des arts. Hein,
des arts et de l'écriture.
Et de l'écriture,
et de la
Caroline,
pensée, voilà. Et de la théologie. Songez que Claude de Turin, évêque de Turin, a fini par dire dans les années 820-822 « Le christianisme est incompatible avec l'esclavage. »
Oui.
Ceci plus de 800 ans avant.
Mais oui, voilà.
Il y a donc parmi ces intellectuels une réflexion profonde sur la nature des exigences du christianisme dans un empire qui se proclame chrétien et qui n'y arrive pas.
Alors, il y a quand même un point très important à souligner, c'est qu'il y a ce cercle de lettrés, ce cercle d'érudits autour de Charlemagne, ces réflexions qui sont faites. Mais il y a aussi chez lui, eh bien, la fondation de monastères avec la
bien
volonté
sûr.
Que dans ces monastères,
des quantités de monastères, plusieurs centaines pendant son règne,
232 monastères.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et donc, il demande que dans ces monastères, des jeunes moines soient spécialisés dans la copie de manuscrits. Il est très attentif à la correction des textes, à ce que les textes soient bien recopiés. Il les fait décorer par l'enluminure. Eh bien, René, la peinture, les enluminures carolingiennes sont splendides.
Quelqu'un qui clarifie les fondements de son régime, qui étend considérablement son territoire, qui développe l'administration, la justice et tout ce qui va avec, qui assure la prospérité dont nous parlait Michel Rouche tout à l'heure, qui crée des écoles partout, des monastères, qui va lui-même encourager les arts et les lettres, on aurait quand même mauvaise grâce à lui trouver des défauts. C'est un très grand personnage. Il porte bien son nom, ce Carolus Magnus, ce Charles Magne, c'est ce qui veut dire Charles le Grand. Vous parlez d'ailleurs de sa postérité dans votre édito, hein, Michel de Gégère.
Je pense que sa postérité du point de vue de la culture et de la civilisation est immense. C'est-à-dire qu'il a vraiment réalisé le mariage de l'héritage antique avec le christianisme. Alors lui, comme le dit Michel Rouche, imparfaitement personnellement, voilà. Mais la grande idée finalement de la Renaissance carolingienne, c'est cette christianisation de l'héritage antique.
Et les contemporains l'ont dit, et c'est ainsi qu'à la mort de Charlemagne, vous avez un clerc irlandais qui appelle Charlemagne « chef vénérable de l'Europe ». C'est en toutes lettres dans ce poète et chez ce poète irlandais. Nithard, Lithard, le fruit des amours de la princesse Berthe avec Angilbert, l'abbé d'Aix-la-Chapelle. Nithard estime que l'Europe entière, dit-il, il écrit ça vers 840, l'Europe entière a été assouvie des bontés de Charlemagne.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler des bontés de ce personnage encore assez méconnu. Charlemagne, la renaissance de l'Occident, c'est le grand dossier du Figaro. Histoire dans cette nouvelle livraison. Et puis, parmi tous vos ouvrages, Michel Rouche, je rappelle Les Racines de l'Europe, les sociétés du Haut Moyen-Âge, c'est publié chez Fayard. Et puis là, vient de reparaître chez Pluriel votre Clovis, donc en édition de poche. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Johan sur les roues et les rousses.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Johan, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui voudrait savoir de quand date cette étrange et déplaisante réputation qu'avaient les roues et les rousses.
Alors, c'est une spéciale dédicace pour un membre de notre équipe aujourd'hui. Je regarde Marion en parlant. C'est vrai que les roues et les rousses ne représentent que environ 2% de la population. Donc, tout simplement, ils attirent l'attention. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut dire. C'est aujourd'hui être roux, n'est-ce pas? On a quelques beaux exemples. Au cinéma, c'est devenu un symbole de sensualité, de glamour. Pendant très longtemps, ça n'était pas le cas. Et dans l'Antiquité notamment, c'est vrai que les roues avaient très mauvaise réputation. C'était le cas en Égypte, en Grèce, en Galilée. Au Moyen-Âge encore, l'Inquisition fera passer plus de 20 000 femmes rousses sur le bûcher, tout de même. Hein. Et on a vu Saint-Louis commander une ordonnance obligeant les prostituées à se teindre les cheveux en roues pour que, justement, elles soient en quelque sorte conformes à leur réputation. Tout ça a disparu peu à peu, mais il reste peut-être un peu quelque chose. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Red and Proud, une association anglo-saxonne, bien entendu, qui lutte contre les discriminations à l'égard des roues.